Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Billy Van Lutumba.
Pour pollution présumée de l'environnement dans le village Kambomboa dans le Lualaba, l'entreprise Ntenke Fungurume Mining, traduite en justice par le Parti écologique. En ouverture de cette édition, vous suivrez les propos du responsable de ce parti qui parle des maladies cutanées et respiratoires qui touchent déjà les habitants. Dans ce journal, Paul-Richard Malengela depuis Mbandaka revient sur les récents naufrages survenus la semaine dernière à Bumba dans la Mongala. Le bilan malheureusement est revu à la hausse. Comme invité, nous recevons Dr. Bertien Sadi, président national de l'Ordre des médecins en RDC. Il revient sur la mesure du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire fermant les facultés de médecine dans quelques universités du pays. Fidèles auditeurs, merci de choisir Radio Capi pour vous informer. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. À Kolwezi, le parti écologique Soleil a porté plainte contre l'entreprise minière Ntenke Fungurume au parquet général de Lualaba hier vendredi. D'après Dr. Médard Dieya, son président national, cette plainte est tributaire à la pollution de l'environnement causant des maladies cutanées et respiratoires des habitants de Kabomboa. Kabomboa, village situé à près de 12 km de Fungurume. Il fait ses déclarations au micro de Tati Mapuku.
Constituer un parti civil contre Ntenke Fungurume en déposant notre plainte au parquet général de Lualaba parce que ce dernier a pollué l'environnement dans le village Kabomboa. Donc nous avons fait un constat malheureux. Quand vous y êtes, le village est couvert de poussière, l'air est pollué, les eaux sont polluées, les champs locaux sont vraiment pollués. La population développe de diverses maladies, entre autres les maladies de la peau, les difficultés respiratoires, la toux et consorts. Nous pensons qu'en sa qualité de multinationale, il a quand même un cahier, il a un cahier de charges à respecter parce qu'il a violé ses cahiers et n'a pas respecté, il a pollué et doit payer.
Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a fait la restitution de sa mission effectuée à Harare au Zimbabwe au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde ce samedi. Il annonce l'installation de l'entreprise Pepsi en République démocratique du Congo très prochainement. Richard Junior Kamunga nous donne les détails de la mission du ministre de l'Industrie à Harare.
Envoyé par le président Félix Antoine Tshisekedi à Harare pour participer mercredi dernier à l'inauguration de la troisième phase du projet de la société brassicole Varun Beverdier, une filiale de Pepsi, une firme internationale. La cérémonie a été présidée par le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa en présence de plusieurs officiels et les chairman de Pepsi Afrikazi. Juste après la cérémonie, Julien Paluku a visité les différentes usines qui comptent s'installer en République démocratique du Congo pour la production des canettes, boissons et emballages dans les différentes marques de cette firme.
Rien que cette firme qui vient d'être inaugurée il y a quelques instants par le président de la République, eh bien, il y a plus de 2000 employés qui sont ici et à l'intérieur de des provinces de Zimbabwe, il y a plus de 3500 surtout filles qui ont reçu de l'emploi à partir d'ici pour un investissement qui est en deçà de 100 millions de dollars. Et donc, vous comprenez qu'avec peu d'argent, on peut relever l'économie de notre pays. Et c'est en partage de cette expérience que le Zimbabwe a eue, que je suis venu, pour que nous puissions voir comment dupliquer cette expérience, parce que le président tient à créer de l'emploi, à créer de la richesse, à créer des millionnaires congolais.
Les responsables de cette firme Pepsi sont attendus au début de la semaine prochaine à Kinshasa.
À Bumba, dans la Mongala, bilan à la hausse des victimes du naufrage d'un convoi des pirogues motorisées la nuit. Les autorités parlent actuellement des 55 corps repêchés, des plus de 80 survivants et d'une centaine des disparus. Le naufrage est survenu dans la nuit de mardi à mercredi dernier au village Ngengele, à environ 24 km en amont de la ville. À cet effet, le gouvernement provincial a décrété un deuil provincial de 3 jours à partir de ce lundi à mémoire des victimes. Le point avec Paul-Richard Malengela.
Les recherches se sont encore poursuivies ce week-end sous le fleuve Congo aux alentours de Bumba, ont indiqué nos sources. C'est en vue de retrouver certains corps, mais le nombre de victimes jusque-là a été revu à la hausse, soit 55 corps repêchés et aussitôt enterrés, pour la plupart en décomposition. On compte aussi quelques 80 rescapés et une centaine de disparus. Mais l'espoir de retrouver d'autres survivants devient minime, car plusieurs passagers seraient encore enfouis sous l'eau, précisément sous des sacs de maïs. Difficile aussi de remonter l'embarcation de 9 pirogues, lesquelles ont été englouties au fond du fleuve, par la charge notamment des briques cuites qui étaient à bord, a indiqué un témoin. Le gouverneur intermédiaire de la Mongala, Serge Mongoulou, s'est rendu jeudi dernier à Bumba, compatir avec sa population. Il a remis une enveloppe aux familles des victimes. On a vu aussi le gouverneur de Chingundu, Malengot, poser le même acte de compassion. Et le gouvernement provincial de la Mongala a décrété 3 jours de deuil provincial, dès ce lundi 11 octobre, en mémoire des victimes, dont la plupart étaient des jeunes vacanciers. Cependant, plusieurs observateurs demandent aux deux gouverneurs de la Mongala et de la Tchopo d'instruire tous leurs commissaires fluviaux à faire respecter les lois en vigueur, dont l'interdiction de la navigation nocturne, qui est à la base de beaucoup d'accidents du genre. Mbandaka, Paul Chamalingué, la radio Okapi.
Et dans le territoire de Mwanda au Congo central, il s'observe une rupture de stock des préservatifs dans des endroits de distribution ravitaillés par la zone de santé rurale de Mwanda. Le coordonnateur de la société civile santé de cette partie du pays qui livre cette information renseigne que c'est depuis le mois de mai passé qu'il n'y a plus que des préservatifs ne sont plus visibles dans les structures d'accompagnement des professionnels de sexe. Jean-Paul Pindou redoute déjà le flux des maladies sexuellement transmissibles et du VIH chez les professionnels des sexes généralement. Ces propos ont été recueillis par Nana Plurichimambo.
Il y avait des hommes qui nous fournissaient des préservatifs. Dans le cadre de lutte contre le VIH/SIDA, les amis de la santé sexuelle et de la reproduction nous aident quand même avec la petite quantité qu'ils ont. À notre niveau, je crois que nous allons chercher des stratégies pour voir un peu comment nous-mêmes nous pouvons en procurer. Que les partenaires puissent encore avoir un œil regardant pour nous aider à avoir des préservatifs, parce que ces préservatifs-là, nous en donnons gratuitement à ceux qui en ont besoin, surtout le PS, les professionnels des sexes, les UDI, ainsi que les MSM. Et ce sont ces gens-là qui ont les sexes comme étant métier pour qu'ils ne soient pas exposés davantage. Le risque est permanent parce qu'il peut y avoir contamination avec des infections sexuellement transmissibles, les IST, et pourquoi pas la grande infection qui fait peur, le VIH et SIDA. Le VIH, nous savons comment ça se transmet, par la voie sexuelle, par la voie sanguine, par la voie périnatale. Mais ici, je m'en vais plus parler de la voie sexuelle, donc avec les rapports sexuels non protégés. Pour cela, nous demanderons que les gens soient vraiment responsables.
Sachez que le médecin chef des zones de santé de Mwanda que nous avons contacté indique que la zone dispose d'un stock important des préservatifs lui dotés par l'UNFPA. Vu que les prestataires au niveau des centres de santé qui entrent en contact avec les professionnels des sexes sont en grève, la zone ne sait pas procéder à la distribution. Quelques nouvelles en rapport avec la rentrée scolaire. Les responsables de la division provinciale de l'EPST Nord Kivu 2 veulent éviter des sanctions, celles de désactiver certains enseignants en grève dans la ville et territoire de Beni. Raison pour laquelle les enseignants de toutes les écoles publiques de Beni ont été sensibilisés ce samedi par le chef de cette division provinciale afin de reprendre les enseignements. Les enseignants de leur côté disent attendre l'évaluation de leur grève demain dimanche afin de se prononcer sur la levée ou non de la grève en tenant compte de leur entretien de ce samedi. Le secrétaire permanent du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, Sinecat, Beni, donne l'essentiel de cet entretien. Pascal Tembo Mouliwavio est au micro d'André Kitenge.
Il a été question de sensibiliser les enseignants qui sont à grève à pouvoir reprendre le chemin de l'école pour que les sanctions qui ont été prévues par le ministère, celles de désactiver les enseignants, ne puissent tomber sur les enseignants de Beni qui sont dans la province éducationnelle Nord Kivu 2 que lui est en train de gérer. Il a donc essayé d'expliquer que toutes les revendications des enseignants sont légitimes et légales, sauf que ce sont des revendications qui trouvent leur réponse au niveau national et que donc nous devrions attendre la décision sortie du syndicat national avec le gouvernement pour prendre une quelconque position. Voilà un contour dans lequel il a entretenu les enseignants qui ont maintenant à évaluer leur mouvement de grève demain, dimanche à 14h à l'Institut Bungulu, afin de décider de leur position de grève en tenant compte de l'entretien du Proved qui vient de leur parler aujourd'hui.
Au Nord Kivu, la coordination provinciale de la société civile demande au gouvernement de prendre en compte les revendications des enseignants grévistes au lieu de les intimider afin de sauver l'éducation des enfants. Edgar Matesso, son vice-président, réagit ainsi à la note circulaire du secrétariat général de l'EPST demandant aux autorités scolaires de procéder au contrôle physique des enseignants en vue de désactiver les absents du fichier de paie. Pour lui, cette situation risque plutôt d'accentuer l'insécurité, notamment dans la province du Nord Kivu. Edgar Matesso est au micro de Grace Hamzati.
Au lieu de résoudre les problèmes, on veut en créer un autre. Parce que le salaire est à la vie du travailleur. Lui retirer ses salaires, nous pensons que c'est inhumain, c'est antidémocratique. Madame la secrétaire générale de l'EPST devrait retirer sa mesure et plutôt privilégier la table ronde, approcher les bancs syndicales. Nous vivons une situation d'abord de guerre. Les gens sont traumatisés et il faut ajouter à ces traumatismes sécuritaires et notre traumatisme de conditions de travail. Vous imaginez s'il arrivait que tous les enseignants se cabrent pour ne plus aller à l'école, qu'ils soient tous désactivés. Ça va créer une autre insécurité parce que ça aura créé d'abord beaucoup de chômeurs. Ça peut aussi créer des soulèvements du côté de leurs apprenants, les élèves, ou alors amener, pour le cas du Nord Kivu, ces jeunes qui ne seront plus encadrés par leurs enseignants à adhérer aux groupes armés. Et ça risque de créer une situation que l'on ne saura plus gérer.
La grève des enseignants n'est pas levée dans la province du Kwilu malgré la décision du ministre national de l'EPST de remplacer les enseignants absents par des nouvelles unités. L'Assemblée générale de la synergie des syndicats provinciaux va se décider sur la question. Jules Mokonzi, président provincial de la dite synergie, qui l'annonce, fustige cette décision du ministre Tony Mwaba, soutient par contre la reprise des pourparlers avec le banc syndical en vue d'une solution. Jules Mokonzi l'a dit à Irène Boma.
Nous avions eu ce texte-là, c'est-à-dire message du ministre national. Nous avions dit aux autorités scolaires d'ici que la décision de la grève n'était pas prise par le comité provincial ou comité urbain. C'était au cours d'une grande assemblée. Comme nous avions eu, nous allons transmettre l'information à qui le soit, c'est-à-dire à l'Assemblée générale qui va analyser ce message-là et prendre une position. Notre position commune dans ce sens. Mais ce que le ministre fait n'est pas bon. Il y a un problème qui se pose. On cherche des voies et moyens pour le résoudre au lieu de chercher à forcer des choses comme ça. Non, on va faire ci, non, on va faire cela. Admettons qu'aujourd'hui, tous les enseignants restent à la maison. On va constater l'absence de tous les enseignants. Est-ce que c'est une façon de résoudre le problème ou une façon d'aggraver la situation? La grève n'est pas suspendue aujourd'hui, étant donné que l'Assemblée générale n'a pas encore eu lieu.
Parlons présentement de l'enseignement supérieur universitaire. L'Association des défenses des droits des patients salue la mesure du ministre de l'ESU interdisant le recrutement des étudiants dans les universités dont les facultés de médecine sont non viables. Dans une déclaration hier vendredi à la presse ici à Kinshasa, la présidence de l'ADDP a indiqué que cette instruction contribuera à l'assainissement du secteur du personnel de santé, déterminant majeur dans le processus de la couverture sanitaire universelle. Maître Ntimire Muzigiwa invite le ministre à ne pas céder à certaines pressions, le poussant à revenir sur sa décision. Ses propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Cette décision vient de répondre aux préoccupations des acteurs œuvrant dans les secteurs de la santé en général et en particulier les patients victimes des accidents et des fautes médicales occasionnant infirmité et décès. Ces dommages évitables sont liés pour la plupart à l'incompétence et à la négligence des personnels soignants. Plusieurs dénonciations ont été faites devant le Conseil national de l'Ordre des médecins et auprès de l'autorité publique et des réflexions ont été menées par différents acteurs dans le souci d'assainir le secteur des ressources humaines de la santé. Il va sans dire que cette décision de Monsieur le ministre n'est pas un fruit du hasard, mais plutôt une réponse à un problème de société. Ainsi, une enquête de viabilité ayant été menée, les résultats renseignent que sur près de 110 facultés de médecine fonctionnant en République démocratique du Congo, une dizaine à peine répondent aux critères de viabilité.
Actualité internationale.
Les autorités gabonaises mènent l'enquête sur les allégations d'exploitation et d'abus sexuels concernant les soldats de la paix du contingent gabonais en République centrafricaine. L'enquête nationale est conduite conjointement avec le Bureau de services de contrôle interne des Nations Unies et soutenue par le défenseur des droits des victimes de l'ONU en République centrafricaine. Les incidents auraient eu lieu à différents moments entre 2014 et cette année 2021. Et puis, le roi du Maroc, Mohamed VI, a exhorté le nouveau Parlement à défendre la souveraineté et les intérêts du royaume dans ce contexte chargé des risques et de menaces dont il n'a pas précisé la nature. En août dernier, l'Algérie voisine a rompu ses relations diplomatiques à la suite des tensions croissantes au sujet du Sahara occidental. Le Maroc, revendiquant la souveraineté sur le front Polisario, ancienne colonie espagnole, soutenu par Washington. Depuis un accord conclu l'année dernière, cette situation a permis au pays de normaliser ses relations avec Israël, mais n'a pas arrangé les relations déjà tendues que Rabat entretenait avec Alger.
L'invité.
Docteur Bertien Sadi, président national de l'Ordre des médecins en RDC, est notre invité du jour. Il salue la décision du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui retire l'organisation des filières de médecine à certaines universités à travers le pays. Docteur Bertien Sadi s'entretient avec J.R. Longembo.
Docteur Berthier Nsadi, bonjour.
Bonjour.
Que s'est-il passé pour que le conseil de l'ordre de médecins soit mis en cause dans cette affaire de fermeture des filières de médecine dans certaines universités déclarées non viables?
Ah, merci beaucoup. On a l'impression que le tort de l'ordre de médecins, c'est d'avoir passé sa communication aux états généraux. Et pourtant, les états généraux, c'est justement un espace idéal pour communiquer et donner l'état de la situation de l'enseignement supérieur et pour nous au niveau des filières de médecine dans notre pays. C'est simplement parce que ce rapport-là, c'est un rapport très méticuleux et très méthodique et qui a retenu l'attention de toute l'assistance et l'attention du ministère de l'enseignement supérieur universitaire.
Alors pourquoi l'ordre de médecins ne devrait-il pas se contenter à durcir les conditions d'inscription dans les tableaux de l'ordre de médecins que plutôt de se mêler dans cette affaire des viabilités des universités ou des filières de médecine?
Ah bon, très bonne question. Ben parce que c'est que les gens ne savent pas et je profite de cette occasion, c'est que il y a une décision de son excellence sur les facultés de médecine non viables. Nous ne pouvons pas agir sur les facultés de médecine. C'est pour cela que nous sommes très contents et nous le soutenons parce que l'ordre de médecins, ayant déjà eu tiré ces conclusions-là, a pris une décision en interne. La décision de l'ordre de médecins en interne, nous l'avions dit en 2018, c'est que ceux des facultés qui ne seront pas viables, l'admission au tableau de l'ordre, puisque nous n'allons pas aller demander à son excellence d'annuler ses diplômes, vous savez, c'est du faux. Hein. Une faculté de médecine qui n'est pas viable, qui n'a pas fonctionné aux normes, normalement, dans un pays qui se respecte, ces diplômes-là devaient être remis en question. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, parce que les diplômes existent, parce qu'on ne peut pas pénaliser les étudiants, l'ordre de médecins a délibéré en toute indépendance et en toute responsabilité pour le bien de ces médecins-là, d'admettre au tableau de l'ordre des médecins les médecins qui détiennent des diplômes issus des facultés de médecine non viables, moyennant la réussite à une évaluation que nous appelons test. Le premier test va concerner environ 800 dossiers qui attendent à l'ordre des médecins et ça aura lieu à la fin du mois de novembre. C'est une approche. Si vous voulez recevoir toute la pression, laissez les choses se passer telles qu'elles dehors et mettez les barrières devant chez vous. Ben, vous finirez par subir la pression et ça va sortir. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, et c'est très important ce que je vais dire. Lorsque un médecin, l'ordre de médecin lui donne un numéro, vous ne savez pas où le confrère va aller. Il peut aller à l'étranger. Et la plupart des pays au monde ont contracté ce qu'on appelle les systèmes de vérification avec un grand organisme qui se trouve aux États-Unis qui s'appelle Philadelphie. Et lorsque Philadelphie reçoit un dossier de demande de vérification de cursus, quand il écrit à l'ordre, il ne vérifie pas que le numéro. Il vérifie également, il vous demande de lui communiquer l'université. Ça, l'opinion ne le sait pas, mes chers amis. C'est cela. Et vous vous retrouvez avec des facultés de médecine parfois qui ont disparu.
Alors, donc on peut dire que les 16 universités déclarées viables pour organiser la filière de médecine peuvent réellement se frotter les mains et se dire déjà échapper à l'épée des Damoclès de l'ordre des médecins.
Nous ne regardons pas beaucoup les universités citées par dans l'arrêté de son excellence. Non. Nous regardons beaucoup plus, c'est aussi extrêmement important. Les autres que nous avons estimé que vous n'êtes pas viable. Parce que le souci de l'ordre de médecins, c'est que ces facultés de médecine se mettent aux normes pour que les produits qu'ils nous envoient à l'ordre de médecins ces produits soient des produits de qualité, pour que nous, l'Ordre des médecins, nous ne mettions pas des dispositions, des dispositifs d'autres. L'Ordre des médecins est arrivé, malgré lui, à prendre la
décision.
Vous
avez même déclenché une sonnette d'alarme pour l'université de Kisangani.
Ah, justement, nous avons déclenché sonnette d'alarme pour son excellence. Le pays avait trois grandes facultés, trois grandes universités. Aujourd'hui, il y a une université qui, progressivement, en tout cas pour ce qui est de la médecine, nous l'avons vu, et c'est des choses mathématiques. Mathématiques, nous l'avons dit, attention, ça décroche. Et beaucoup de facteurs, là, ça décroche, c'est l'université de l'État, la troisième du pays. Alors, qu'en est-il des autres facultés que l'État n'a pas suivies?
Docteur Berthier Sadi, nous rappelons que vous êtes le président de l'Ordre des médecins. Merci de nous avoir accordé cette interview.
Merci beaucoup.
C'est la fin de cette édition du journal. Nous vous disons merci de l'avoir écouté.